Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité, le président américain Donald Trump a signé à Davos, en Suisse, la charte fondatrice de son Conseil de paix en présence d'une vingtaine de dirigeants. Le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza rouvrira dans les deux sens la semaine prochaine, selon l'administrateur du territoire palestinien. Et enfin, Emmanuel Macron recevra ce vendredi le Premier ministre libanais Nawaf Salam afin d'évoquer le fragile accord de cessez-le-feu avec Israël et la poursuite du désarmement. Nous l'avons évoqué dans les titres, le président américain Donald Trump a signé à Davos en Suisse la charte fondatrice de son Conseil de paix en présence d'une vingtaine de dirigeants de pays qui ont accepté de rallier cette instance placée sous sa coupe. Et dans l'actualité au Moyen-Orient, le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza rouvrira dans les deux sens la semaine prochaine, une annonce de l'administrateur du territoire palestinien, nouvellement nommé par ce Conseil de paix du président Amérique. Et les enquêteurs de l'ONU chargés d'examiner les violations des droits dans les territoires palestiniens et en Israël ont dit espérer que ce conseil de paix leur ouvrirait les portes de Gaza. Donald Trump a révélé son plan pour un nouveau Gaza qui transformerait l'enclave palestinienne dévastée en un complexe luxueux de gratte-ciel en bord de mer, un projet qui pourrait voir le jour dans 3 ans. Emmanuel Macron recevra ce vendredi le Premier ministre libanais Nawaf Salam pour évoquer ce fragile accord de cessez-le-feu avec Israël et la poursuite du désarmement. Dans le reste de l'actualité internationale sur la situation des Kurdes en Syrie, le porte-parole du ministère français des étrangères a souligné son soutien aux Kurdes et a affirmé que la France restait engagée dans le processus de soutien d'une Syrie qui inclut toutes les minorités. Dans un tout autre volet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué des discussions trilatérales entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie qui doivent se dérouler cette semaine aux Émirats arabes unis, sans plus de précision. Et enfin, en France, une enquête pénale a été ouverte à Bordeaux sur la mort d'un nourrisson qui a consommé un lait infantile de la marque Nestlé, concerné par un rappel pour une possible contamination à une bactérie, selon le parquet. Cela 2 jours après l'annonce d'investigations sanitaires sur ce décès. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio les dossiers du jour. Premier dossier du jour dans un climat très tendu. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi une résolution appelant au lancement d'une procédure en vue d'inscrire les Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes avec le soutien du camp gouvernemental et du Rassemblement national malgré l'opposition de toute la gauche. La ministre déléguée chargée de la francophonie, Éléonore Carrois, revient sur cette résolution au nom de son gouvernement.
Le texte qui a été examiné ce matin, c'est un projet de résolution européenne qui vise à demander à la Commission européenne déjà d'analyser, d'étudier les faits, de regarder quelles sont les véritables conséquences des frères musulmans, de cette mouvance qui est présente dans de nombreux pays européens notamment et dans de pays du monde et qui ensuite demande à la Commission de se saisir du Conseil de l'Europe pour proposer au Parlement européen de qualifier comme organisation terroriste ce mouvement des frères musulmans. Moi, je l'ai dit dans ma déclaration générale, aujourd'hui, nous n'avons pas de preuves, de faits, d'actes qui permettraient cette qualification. Mais en revanche, ce n'est pas ce que demande cette résolution. Donc, je pense qu'il faut être vraiment très précis. Et là, c'est l'avocate qui vous parle. Cette résolution, c'est tout simplement une demande. C'était aussi une alerte sur une situation. Et ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, le gouvernement est tout à fait mobilisé pour que, dans le cadre de la loi et de la loi seulement, en respectant tous les principes de notre République, le pluralisme, la liberté d'expression, la liberté de culte, tous ces principes, évidemment, on lutte le plus fermement possible contre toutes les formes de radicalisation, d'entrisme et évidemment tout ce qui met en danger nos concitoyens.
Et ça, c'est un élément très important, justement, que propose la loi française aujourd'hui pour combattre l'islam politique et l'entrisme islamiste.
Alors la loi, justement, française est déjà pourvue de mécanismes qui permettent de le faire. Il y a une loi qui a été adoptée en 2021 et le président de la République l'avait rappelé d'ailleurs dans un discours qu'il a fait au Murau en 2020. Cette loi a permis notamment de démanteler certaines organisations dont il était avéré qu'elles avaient une action néfaste, une action contraire à la loi, comme Baraka City, comme d'autres, et a permis de démanteler certaines associations lorsque justement ces faits étaient prouvés. Ce n'était pas, disons, quelque chose de général ou de générique qui s'attaquerait à une mouvance, encore une fois, dont évidemment les idées, l'entrisme politique sont établis, et c'est pour ça qu'il y a énormément de surveillance, mais il n'y a pas de lien qui ait été établi avec le terrorisme. C'est pour ça que, à la fois, ce qui est demandé dans le projet de résolution, nous le comprenons, nous avons donc fait un avis de sagesse, mais il faut faire extrêmement attention et toujours rester dans le cadre de la loi.
Et vous venez d'écouter la ministre déléguée chargée de la francophonie, Éléonore Carrois, au micro de François-Xavier de Calonne, et elle est l'invitée du Grand Angle. Et le député Renaissance Jean-François Rousset, très réservé sur cette résolution, nous fait part de son regard sur la manière dont la France doit combattre l'entrisme islamiste.
Moi, je pense que ça part de très loin, ça part de nos valeurs qu'on doit enseigner dès l'école, qu'on doit continuer à enseigner au collège, au lycée et à l'université, qu'on doit aborder sereinement dans les débats politiques. Il ne devrait pas y avoir d'omerta par rapport à certains sujets. Et on voit bien que le milieu de l'éducation, puisque je faisais un lien avec l'école, est très impacté, puisqu'ils ont eu des morts. Et on sait qu'il y a une partie des enseignants qui ne veulent pas ou ne peuvent pas aborder ces sujets. Donc on a bien besoin à un moment de donner les limites, de soutenir ce qui devrait faire cette part d'éducation entre guillemets civique et nationale par rapport à ceux qui veulent quelque part nous détruire de l'intérieur. Donc je pense que c'est un combat qu'il nous faut assumer dans toutes les sphères de la société, que ce soit à table avec des amis, en conférence, au Parlement, ou avec vous aujourd'hui et devant un micro.
Et les premières victimes des frères musulmans ne sont-ils pas les musulmans dans leur très grande majorité aujourd'hui en France?
Je pense qu'en d'une certaine façon, ils le sont. Et si je me réfère à ma circonscription, dans laquelle, dans les années 70, je crois, un député qui est devenu ministre a permis la construction d'une mosquée, je les rencontre régulièrement, ils expriment cette inquiétude, c'est-à-dire qu'ils se sentent intégrés, ils ont le droit de pratiquer leur religion, comme toutes les autres religions, d'ailleurs, il n'y a pas de raison, et c'est, j'en reviens à la laïcité, mais c'est vrai que les extrémistes qui se réclament de l'islam qui devrait être tel que eux le veulent le pratiquer, les mettent en danger parce que ils veulent mettre au-delà des lois de la République les lois de leur croyance.
On l'entend à travers votre propos, hein, il est très important de sensibiliser la jeunesse à cela. Et cela passe notamment par les réseaux sociaux, TikTok, le président de la République l'a souligné récemment, TikTok qui pouvait être une passerelle vers les discours radicaux.
Le rôle des réseaux sociaux est arriver à avoir autant d'influence que les influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs. Donc il faut nous prendre en charge, il faut se servir des réseaux sociaux. Et par exemple, moi je suis très branché sur les sujets de la santé. On travaille, la ministre de la Santé travaille avec les parlementaires et d'autres pour mettre en place un système de vigilance pour lutter contre les désinformations médicales le plus rapidement possible. Parce qu'on sait que la désinformation va très vite et c'est exponentiel. Donc il faut traiter le sujet très tôt. Et je pense que sur ces sujets, c'est aussi important de le faire.
Vous venez d'écouter le député Renaissance Jean-François Rousset au micro de François-Xavier de Calonne. Second dossier du jour, direction la Syrie, où les combats entre l'armée et les forces kurdes ravivent une inquiétude majeure, le sort des détenus de Daesh. Plusieurs prisons et camps abritent encore des milliers d'ex-combattants, mais aussi des femmes et des enfants. Et face au risque d'évasion, les États-Unis ont commencé à transférer des prisonniers vers l'Irak, où Bagdad annonce l'ouverture de procédures judiciaires. On fait le point avec vous, Nadia Mencher.
Le scénario inquiète de longue date les services de sécurité en Syrie. L'instabilité fragilise les prisons et les camps qui détiennent des membres présumés de Daesh. Des milliers d'ex-combattants, mais aussi des dizaines de milliers de femmes et d'enfants sont répartis dans une vingtaine de sites. Parmi eux, près de 10 000 étrangers, des lieux qualifiés par des spécialistes de chaudrons de radicalité, mais leur degré de radicalisation reste difficile à évaluer de façon globale. globale. Depuis l'offensive lancée par l'armée syrienne contre les positions des forces démocratiques syriennes, la situation évolue très vite. Une source sécuritaire occidentale parle d'un risque qu'on ne peut pas exclure, celui d'évasion sur fond de transfert de troupes et de retrait de gardiens kurdes. Le cessez-le-feu annoncé prévoit que l'État syrien devienne responsable des détenus, mais sur le terrain, l'incertitude demeure. Les forces kurdes disent avoir dû se retirer du camp d'Al-Hol, le plus grand, qui abrite environ 24 000 personnes, dont des milliers d'étrangers. Et les versions divergent sur la prison de Shadadi. Les Kurdes parlent d'une attaque. Damas accuse les FDS d'avoir libéré des détenus. Dans ce brouillard, rumeurs et propagande circulent. Pour les experts, des évasions massives seraient la chronique d'un désastre annoncé, d'autant que Daesh suit de près la situation. Sur ses canaux de communication, le sort des prisonniers est déjà au cœur des discussions. Même une libération limitée pourrait renforcer ces combattants encore présents en Syrie. Face à ce risque, l'armée américaine a lancé des opérations pour transférer jusqu'à 7000 prisonniers vers l'Irak. Et Bagdad annonce ce matin que la justice irakienne engagera des procédures judiciaires contre les détenus transférés une fois placés dans les établissements pénitentiaires appropriés.
C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.